Rachid dit, Akash Borgo, il cite ce que, sinon vous vous souvenez certainement, que la Torah, elle nous dit que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas pris le chemin le plus court, parce que le chemin le plus court, il aurait passé par chez les Philistins, chez les Plishtim, et on aurait dû faire la guerre. Et le Passouk dit que Hachem dit, il y a lieu de craindre qu'en voyant la guerre qu'il devrait faire, il fasse demi-tour et qu'il retourne en Égypte. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur a fait faire un détour pour qu'ils ne retournent pas tout de suite en Égypte. Mais en fait, c'est la juxtaposition par Rachid des deux situations. Elle montre que pour Rachid, cette crainte de la guerre qui entraîne que on va faire demi-tour, on va retourner en Égypte, eh bien, elle est toujours présente, elle est là, malgré le détour, malgré tout ce qui s'est passé entre-temps. Et maintenant qu'ils sont face à une guerre, au moment d'entrer en Eretz Israël, ils ont la même panique, la même peur de la guerre. Et cette peur de la guerre, elle leur fait dire, on va retourner en Égypte, qui est encore plus impossible. Alors, au moment chez les Plishtim, si on avait passé chez les Plishtim, on était juste à côté. C'était facile de revenir. Maintenant, on est beaucoup plus loin et les choses ont beaucoup évolué. Et c'est des fantasmes complètement de cette idée qu'on va retourner en Égypte. Mais ils vont aller jusqu'à dire, Nitna, on va se donner un chef et le chef va nous conduire, nous aider à retourner en Égypte. Alors, je voulais voir avec vous d'abord quelques midrashim, en fait. Sur ce début de la paracha, le pasouk dit, Shlach lecha anashim. Le midrash dit, c'est le midrash Rabba, au début de ce midrash sur la paracha. Il dit que, en fait, il dit, il commence par dire Vatedaber, il amène le pasouk Vatedaber Myriam ve Aaron ve Moshe, ce qui a été dit à la fin de la paracha précédente. Ve'achar kach shlach lecha. Donc le Midrash dit, en fait, il pose la fameuse question de Rashi, Rashi pose la question du Midrash plutôt, pourquoi est-ce que les deux sont juxtaposés, l'histoire de Moshe et Aaron, Myriam et Aaron qui disent du mal de Moshe, et avec la sanction de la lèpre de Tsarat, de Myriam, etc. Alors le Midrash dit justement, c'est ce qu'il faut éclairer avec le Passouk. C'est un Passouk dans le Navi Yeshaya, qui dit, Lo yadou ve lo yavinu, parle du Bnei Israël, ils savent pas, ils comprennent pas. Pourquoi? Ils comprennent pas qui tach meraot enehem. Quelque sorte, c'est comme si ils avaient mis un enduit sur leurs yeux de telle sorte qu'ils ne peuvent rien voir. Ils voient pas. Alors le Midrash demande, Mara l'omar achama se Myriam shlach lecha anashim. Pourquoi cette juxtaposition? Et là, c'est Ayat safru ilifnei Akadosh Baruch Hu sheyomru lashon hara la'aretz. Donc Hachem savait que les Bnei Israël allaient dire du mal d'Eretz Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu. Alors il a dit, Shelo yiyu omrim lo haynu yodim onesh lashon hara. Donc Hachem ne voulait pas que les Bnei Israël puissent dire, quand on leur fera le reproche d'avoir dit du mal de la terre, d'Israël, puisse dire, ben, en fait, on ne savait pas combien c'était grave. Alors ici, ça fait référence à une halakha, hein. Il y a une halakha qui dit que pour condamner quelqu'un, il faut l'avertir. Et dans l'avertissement, on va lui dire ce qu'il transgresse. Il transgresse l'interdit de tuer, par exemple. Et cet interdit de tuer, il est dit sous la forme l'otirtsakh, par exemple. Et si tu tues, tu mérites une peine de mort. Et comme il y a différentes sortes de peines de mort, il faut lui dire laquelle des peines de mort il va encourir. Donc, en disant que les Bnei Israël savent quelle est la sanction du Lashon Hara, alors on peut considérer que les Bnei Israël sont complètement avertis. On leur dit qu'il ne faut pas dire du Lashon Hara de la terre, et on leur a aussi dit ce qu'ils encourent et exactement ce qui va se passer s'ils transgressent. Donc on voit que Hachem il a fabriqué des conditions pour que les Bnei Israël puissent être sanctionnés gravement sur le Lashon Hara de la terre. Pas seulement, Hachem a dit, je vais leur donner, comme on voit ici, c'est pas écrit dans la parasha de cette semaine, mais c'est écrit dans Sefer Dvarim, quand Moshe Rabbeinu va rapporter cet épisode des espions, des meraglim. C'est marqué que, effectivement, Hachem a dit, moi je ne te dis pas d'envoyer, mais si tu veux, tu peux envoyer, mais je t'avertis tout de suite qu'ils vont tomber dans le piège, je leur mets un piège, ils vont se casser la figure. C'est très très difficile, je ne sais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe là. Ça veut dire, Hachem sait que s'ils le font, ils vont tomber, pourquoi il permet de le faire? C'est quoi? C'est une punition pour Moshe d'avoir, parce que Moshe Rabbeinu, ici, on a l'impression que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'Hachem, mais dans le Sefer Dvarim, on voit que c'est le peuple qui a demandé d'envoyer. Et le texte dit, la proposition du peuple, c'est, Moshe Rabbeinu a trouvé que c'était pas mal. Comme il n'est pas de Genève, donc, en fait, Moshe Rabbeinu a trouvé que c'était bien. Donc, il a dit, bon, c'est bien. Et alors, on va voir ici que Moshe Rabbeinu s'est dit, je ne peux pas envoyer des gens. Le Midrash, vous le dites, le Midrash. Quand les Bnei Israël ont dit on veut envoyer des espions devant nous. Itril Moshe Omed Betohe. Donc Moshe Rabbeinu s'est arrêté, et il s'est demandé, il s'est dit, Efshari la sot davar ad she emaler ba kadosh baruch hu. Est-ce que je peux faire quelque chose sans consulter Hachem? Alors venim là. Il est allé la consulter Hachem. Ah, et alors, le Midrash nous dit, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, kach ve-kach banecha mevakshim, voilà ce que tes enfants demandent. Sous-entendu, qu'est-ce que t'en penses? Amar lo HaKadosh Baruch Hu, ein ze trila lahem. C'est pas nouveau, ce qu'il demande là. Ad shehem be-mitzrayim, il igouli. Quand ils étaient en Égypte, déjà à ce moment-là, ils se moquaient de moi quand je proposais de les faire sortir d'Égypte et leur pays, de donner la terre d'Israël. Où est-ce qu'on voit ça? Il y a un passage dans le Navi Hoshéa qui dit Zou l'agam, ça c'est la façon dont ils se sont moqués de Eretz Mitzrayim alors qu'ils étaient encore en Égypte. Limudim aiment le kach. Donc Hachem dit, ils ont l'habitude. D'accord? Ça veut dire, ces Bnei Israël sont ici des sales gosses. Déjà en Égypte, Ils sont esclaves. Je leur propose de sortir de l'esclavage. Je leur propose d'aller, de les amener en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de moi. Ils se moquent, ils font ben, c'est n'importe quoi, quoi. Et donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, ce qu'ils te demandent là maintenant, ça m'étonne pas du tout. Ils n'ont jamais, en fait, arrêté de demander ça.
Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'Hachem ait choisi ensuite les élites de chacune des tribus, c'est aussi une façon de les inculper définitivement, du fait qu'on ne pourra pas dire que c'est le Erev Rav qui les a influencés?
Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Enitzarich l'enasotam, dit Hachem. Je n'ai pas besoin de les éprouver pour savoir ce qu'ils disent. Shekatuv, yada ma bachashocha uneora ime shere. C'est-à-dire, en fait, c'est un pasouk dans Daniel, qui est en araméen, que Hachem sait très bien ce qui se passe dans les ténèbres. Avec lui, il y a toujours plein de lumière, donc il éclaire, quelles que soient les ténèbres, elles sont éclairées par lui. Donc lui, il voit tout, quoi. Là, il a une lampe en infrarouge, donc il peut voir la nuit aussi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Moshe yodea ani mahem. Moshe, moi, je les connais, je sais qui ils sont. Donc ça veut dire, non, il faut pas. Mais, Ella, imbikashta, mais si tu l'as vraiment, si tu le demandes, shlach peux envoyer pour toi. Minayim, shekemtiv, ele shmota Asher Shalach Moshe Latour. Bon, le verset dit, c'est Moshe qui les a envoyés. Alors que dans le texte, on voit très bien qu'ils ont été choisis par Hachem. Donc c'est très, très important et très, très grave ce qu'il dit là, en quelque sorte. C'est qu'en fait, les Bnei Israël, avec tout ce que Hachem leur a proposé, en fait, ils n'ont jamais voulu sortir d'Égypte. Ne voulaient pas. Quand je leur ai proposé, ils se sont moqués, on est très bien en Égypte, quoi. On est là, très bien, c'est peut-être pas très bien, mais à la limite, tu peux améliorer les conditions en Égypte, t'es pas obligé de nous sortir, nous faire promener, aller dans un pays qu'on connaît pas, etc. Donc en fait, ils ont probablement voulu qu'Hachem améliore leur situation en Égypte, ce qui s'était vraiment passé, puisque pendant la période des Makot, les Israël ne travaillaient pas pour une année quoi, qu'ils ne travaillaient pas pour Paro. C'est-à-dire bon, bah, donc du coup ils étaient peut-être pas mal en Égypte. L'Égypte à ce moment-là, c'est un pays où on manque de rien parce que les crues du Nil apportent la nourriture. Et donc c'est une grande civilisation, c'est un truc énorme quoi. Bon alors il y a de l'idolâtrie, il y a tout ce que vous voulez, mais ça les dérangeait peut-être pas. Ce midrash est très important parce que c'est important de savoir ce que c'est pas simplement qu'Hachem a dit à Moshe, moi je te dis pas de le faire, et comme Rachid dit, c'est un piège, etc. Hachem dit en vérité, et ils ont toujours été comme ça, mais du coup on comprend pas très bien. Si Hachem pense, ils sont tellement pourris, c'est Bnei Israël, pourquoi ça continue avec eux, quoi? Qu'est-ce qu'il espère? C'est les Bnei Israël depuis toujours. Ils ont jamais voulu sortir d'Égypte. Donc ils n'y croient pas à son truc, où ils pensent que c'est impossible. Et là, ils sont confirmés, quoi. C'est sûr que il n'y arrivera pas. On a vu ces gens-là, c'est des géants, c'est des forts, ils sont très forts. Il y a même une dracha qui dit que le peuple est plus fort que nous et le nous est dit qu'il est Chazak Mimenu, mais dans la graphie de Mimenu, c'est la même que la graphie de Mimeno. Et Mimeno, c'est-à-dire il est plus fort que lui, qu'Hachem. Ils ont dit le peuple est plus fort qu'Hachem. Hachem ne peut pas. Il peut pas nous faire entrer là-bas. Donc on va se faire massacrer. Donc les Bnei Israël n'arrêtent pas. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je les connais. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi ils continuent avec lui, avec eux? Et on continue avec un peuple dont Hachem lui-même dit que c'est des affreux, quoi.
Il avait dit ça dans la parole de Sakine, d'accord?
Pardon?
Je l'ai laissé dans la parole de Sakine, d'accord?
Mais c'est pas ce qu'il dit ici. Il dit rien là. Ici, il dit simplement, je les connais.
On voit que Moshe Rabbeinu est partenaire d'Hachem dans cette.
Ici, Moshe Rabbeinu, le texte du Midrash dit, parce que toi, tu demandes, Bikashta, c'est comme, je le vois comme une demande de ta part. Si c'est toi qui demandes, je te l'accorde. Mais il lui accorde quelque chose qui va éclater dans les mains.
Vous savez, quand je parlais du début de cette stratégie, que Abraham, c'est Hachem et c'est Moshe qui a demandé à.
Oui, d'accord, mais il ne fallait pas les prendre.
Ça a donné d'ailleurs de
Ça
ça.
fait des ennuis, mais là, ça, là, ici, on va vers la destruction de toute une génération. Bon, ça veut dire qu'en fait, à la limite, il y aurait plus. C'est en fait, le texte dit que quand ils ont fait le veau d'or, Hachem a dit, je vais les détruire. Ça veut dire, je vais détruire complètement le peuple et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Donc, dans l'idée, quand il a dit, je vais les détruire, c'est une phrase qui, a priori, englobait aussi les femmes et les enfants. Je vais tout détruire. Et après, finalement, Hachem n'a pas détruit tout, il n'a détruit que les hommes de la tranche d'âge qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte. Donc, il va y rester quand même des jeunes hommes et des femmes, et des femmes et des enfants, évidemment. Donc, finalement, il n'a pas appliqué ce qu'il avait dit de façon, en tout cas, aussi sévère qu'on l'entendait.
Mais s'il fait ce choix-là, ce tri, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils sont intrinsèquement pourris. Ils pensent qu'ils ont contaminé. C'est comme, bon, je sais pas, il y a la vache folle, on liquide des troupes, on ne tue pas toutes les vaches.
Mais pourquoi contaminer? C'est le problème, il ne parle
Parce
pas
que
de ça.
c'est les
Il dit, je les connais. Non, si.
peut-être qu'ils laissent les enfants, donc une génération qui va suivre, il va les laisser vivre. Donc je suppose.
Non, là-bas, on ne sait pas. Il
Attends.
a, ici, en plus, il n'a pas dit à Moshe ce qu'il allait faire.
Est-ce qu'il a dit qu'il tuait tout, qu'il tuait une génération?
Pas du tout. Là, ici, à
Donc,
cet endroit-là, il n'a pas parlé de la mort directement. Dans Rashi rapporte un Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu dit, Hachem dit, pardon, il dit à Moshe Rabbeinu, il y aura un piège. Et ils vont tomber dans le piège. Donc, en fait, ça veut dire, tu peux les envoyer, mais moi, je prépare un piège. Et ils vont tomber dans le piège.
donc, c'est une condamnation de toute façon. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas réussir.
Ça pouvait pas
Hachem
marcher. Ça
l'a.
pouvait pas marcher. Ça veut dire, moi, j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, moi, quand je lis ça, je lirais plutôt que Hachem dit, bon, il faut peut-être faire une Akdama. En réalité, on ne peut rien faire si Hachem ne nous aide pas. Et par conséquent, ce qu'Hachem dit, je ne vais pas les aider. Il y a un piège et je ne vais pas les aider. Ils vont être tout seuls. Alors, ce n'est pas impossible qu'ils s'en sortent.
C'est bien
Mais
que.
c'est peu vraisemblable. Parce que moi, je ne vais pas les aider.
Oui, ça veut dire que moi, le peuple, il est immature, je ne vais pas les aider. Je les ai toujours aidés depuis la sortie d'Égypte, j'ai fait tous les miracles pour les sortir. Et eux, ils se laissent porter. Et donc, ils vont pas faire un effort personnel pour acquérir cette terre, pour se battre pour cette terre et pour.
Oui, c'est sûr que, oui, c'est même pas qu'ils veulent pas cette terre. Ils disent, ça marche pas, on peut pas l'avoir. C'est pas qu'elle est pas, ils disent, elle est formidable.
Ils sont défaitistes
Ils
d'abord.
font l'éloge de la terre. Ils disent, on a apporté des exemples, on vous a apporté des fruits, etc., pour que vous voyez combien cette terre est extraordinaire. Mais FS, mais on peut, c'est très bien, mais c'est pas pour nous.
Je ne mérite pas ça.
Pardon?
C'est comme s'il disait, on ne mérite pas
Non, on
ça.
peut pas.
Voilà.
Ça, je sais pas. Ils disent pas en termes de mérite. Disons, on peut pas. Et à la limite, dans la lecture du memeno, ça veut dire, même Hachem ne peut pas nous faire. La puissance de ces peuples est telle que même Hachem ne pourrait pas nous aider. Et donc, on va se faire massacrer, et c'est pour ça qu'ils pleurent.
Je ne sais pas pourquoi ça me
Et
sort.
ces pleurs-là, de ce moment-là, c'est les pleurs de Tisha B'Av, oui. Ça se passe à Tisha B'Av. Et donc, ce n'est pas seulement une référence au passé, c'est-à-dire on ne voulait déjà pas sortir, mais c'est aussi une référence, si vous me parlez comme ça, au futur, parce qu'il va se passer à ce Tisha B'Av des tas de choses, destruction des Beth Amikdash, l'Inquisition, il y a certains massacres pendant les croisades, des trucs incroyables qui ont lieu à Tisha B'Av. Ce jour-là est devenu un jour où on a.
Mais ce jour-là, les Bnei Israël se sont désolidarisés d'Hachem complètement. Ils ont dit,
C'est pas des solidarités, ils ont dit il peut pas.
s'il dit peut pas, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'il peut pas.
Ben, ça veut
Ça veut
dire.
dire qu'eux, ils n'avaient pas,
Eh ben,
ils n'ont
on
pas, ils n'ont
reste
pas
pas.
intégré que Hachem peut tout.
Oui, mais on reste pas donc avec un boss perdant. Si vous avez un chef d'entreprise et vous savez qu'il va venir à la ruine, bah. Partez, mais on le détrône par le.
Voilà.
D'où j'ai entendu. Parce que ça parle aussi, vous me laissez un peu en pensée, peut-être, vous avez dû nous le dire, vous, sinon je ne sais pas si je le sors, que c'était. Ces explorateurs, c'était pour régler la faute de Yosef. Donc, c'est une condamnation à mort, de toute façon. Ils vont à droite, ils vont à gauche, ils doivent payer. Et payer une faute aussi grave, c'est la mort.
Alors, l'idée, c'est que si ça venait pour réparer la faute des frères à l'égard de Yosef, ce qui doit être une possibilité, effectivement, mais payer la faute ne peut pas déboucher sur la destruction complète, parce qu'il n'y a plus rien, on n'est pas en train de payer, là. Quand on paye pour réparer quelque chose, c'est qu'on est là après pour en profiter de la chose. Mais si vous dites que la mort de tous ces gens-là,
Ça n'a aucun sens.
c'est pour payer la dette de Yosef, ça sert absolument à rien.
Bah oui, puisqu'on est là, quand même.
Non,
Sinon,
mais
on
vous,
n'aurait
vous
pas
êtes
fait le
là.
travail.
Pardon?
C'est pas vrai.
Non, mais le problème, c'est que il faut pas l'entendre comme ça, parce que sinon, on devrait mettre l'accent sur le fait qui n'est pas écrit du tout dans la Torah, qu'en réalité, les femmes. Et les enfants d'un certain âge ont été épargnés. C'est présenté comme toute cette génération. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des survivants, mais dans la Torah, on présente la chose comme une destruction du clan Israël. Donc, je ne crois pas que. Et en plus, cette destruction du clan Israël, elle est. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que d'après le Gaon qui dit que ce qu'Hachem a pardonné au moment du Vaudor, enfin après le Vaudor, c'est seulement un sursis, d'accord? La condamnation à mort, c'est la condamnation à mort suite au Vaudor. Ici, c'est pas marqué qu'ils vont être condamnés à mort pour ce qu'ils ont fait ici. Bien que le Midrash que je vous ai lu sur le fait que Hachem voulait qu'il ne puisse pas dire on savait pas, on connaissait pas la sanction de Lashon Hara, mais la sanction de Lashon Hara, c'est la tzaraat, c'est ce qui a frappé Myriam. Alors vous me direz, alors c'est qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut se souvenir que quand quelqu'un est frappé par tzaraat, il est considéré comme mort. Il est socialement mort parce qu'il est exclu de tous les camps du clan Israël. Donc c'est une des formes de mort. Il y a des, comme on a dit souvent, il y a, on peut être aveugle, alors, on peut être économiquement mort, c'est ce que Yaakov est devenu quand Eliphaz lui a pris tous ses biens, etc. C'est une forme de mort. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chez eux, ça va pas se traduire par la forme de mort tsarat, mais ça va se traduire par une forme de mort réelle. Alors, on peut dire, leur forme de mort, elle est venue se surajouter à la condamnation à mort qui venait du fait que le sursis est tombé, quoi, qu'il faut payer pour l'œuvre d'or. Donc, elle est englobée, elle est mangée par la peine de mort de toute manière. Donc, y a pas, ils sont pas condamnés à mort deux fois, quoi. Alors ça c'est un peu bon, c'est ça le modèle semble-t-il. Et donc c'est ça qui est un peu compliqué dans cette affaire, c'est qu'est-ce qu'Hachem veut de ce peuple? En fait, normalement, qu'est-ce qu'on aurait attendu de ce peuple? Hachem leur a dit la terre elle est bonne, c'est ce qu'il dit dans le Sefer Dvarim. Je leur ai dit que c'était bon, donc c'est bon. Y a pas, on n'a pas à vérifier si ce que je dis est vrai. Et donc, si les Bnei Israël s'étaient tus, et même, même en récriminant, comme ils récriminent sur la manne, sur l'eau, sur, etc., bon, mais, ils n'ont en tout cas pas en faire tout un plat, ça serait très bien passé. Ça veut dire qu'on aurait continué avec un peuple qui, en réalité, ne veut toujours pas sortir d'Égypte, quoi. Veut toujours retourner en Égypte. Mais c'est intéressant parce que se retourner en Égypte, qui était une réalité possible au moment de la sortie d'Égypte, elle devient un fantasme maintenant. Plus on avance, moins il est possible de retourner effectivement en Égypte, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est complètement fantasmatique de leur part, d'aujourd'hui, ça veut dire au moment où ils parlent, de parler de retourner en Égypte.
Alors, les souffrances d'Égypte et tout ça, c'est du vivant.
Il y a pas mal de gens qui sont retournés en Allemagne après la
Bon,
guerre.
il y a pas mal, pas un peuple quand même.
Non, ben bon, n'importe.
Quelques-uns, quelques
Bon, ok,
émules,
alors.
quelques nostalgiques,
Bon, alors
quelques.
là-bas, c'est tout un peuple parce que ils n'ont pas été massacrés de la manière dont les nazis les ont massacrés. Il y avait des grandes souffrances, mais il n'y avait pas. L'Égypte, l'esclavage égyptien n'était pas une solution finale. Jamais Paro n'a décidé de tuer tout le monde. Il a, à un moment donné, voulu tuer les petits garçons parce qu'il craignait que Moshe ne naisse à ce moment-là. Bon, mais il n'a jamais décidé qu'il fallait tuer tout le monde.
Excuse-moi, je dis sûrement des bêtises, mais tuer les garçons, c'est tuer le peuple, hein? Parce qu'avec qui on
Mais
va.
il va tuer les garçons. Premièrement, il a tué les garçons d'une certaine génération. Dès que les astrologues ont vu que voilà il est plus là, on le voit plus parmi ceux qui ça tourne autour du Nil, ils ont arrêté de jeter les garçons dans le Nil.
Je me dis que le père de Myriam, qui est censé, qui est un grand, vous avez toujours dit que c'était. Et il veut non pas se suicider, mais suicider son couple. Il veut se séparer de sa femme, c'est-à-dire j'arrête.
Oui, mais c'est une manifestation, tout à fait logique, et c'est une façon de faire pression. Ça veut, c'est une façon de faire pression sur Hachem pour qu'Hachem fasse quelque chose, et ça s'est fait. Effectivement, quelque chose va se faire. Alors, est-ce que c'est grâce à la pression d'Amram? Peut-être en partie. Il y a eu, après la destruction du premier Beth Amikdash, il y a eu aussi un mouvement parmi les Juifs de dire on va pas continuer de faire des enfants. Bon, ça marche plus, on va arrêter. Mais bon, d'autres, les familles ont bien sûr, on n'arrête pas.
Est-ce que la sanction qu'il aurait faite ici, ça permet d'éliminer le Erev Rav et la partie gangrénée du peuple?
Vous voyez, ici, les rêves ils jouent pas de rôle là-dessus. On n'a pas, personne ne parle des rêves en tant que tel.
Et cette sanction-là est permise.
Peut-être que, au fond des choses, c'est l'influence, la mauvaise influence de Erevra, mais c'est pas Erevra Vic, ce qui se passe là maintenant. C'est quelque chose dont Hachem dit que c'est quelque chose d'essentiel. Comme si c'était une espèce de condition juive, en fait. Condition du peuple juif. Avant de naître, ce peuple-là, il était déjà en train de dire que on va retourner en Égypte, c'est-à-dire le lieu de la mort. C'est un lieu de mort, pour le peuple. Que ce soit par assimilation. Avec les 4/5 qui disent on va rester en Égypte, on va s'assimiler.
Ce sont donc les explorateurs qui ont rapporté, qui ont induit sûrement du négatif dans le. Ils ont dit la terre est bonne et tout est bon. Ils ont dû induire des choses pour que le peuple veuille.
Ils ont dit, mais on ne peut pas y aller. C'est ça qu'ils ont fait.
Donc, ce sont bien les explorateurs, eux.
Oui, bien sûr.
Et à
C'est
ce moment.
eux qui ont introduit. On voit ici, premièrement, comme les explorateurs étaient les chefs du peuple. Donc, le peuple, il a suivi les explorateurs.
Ben voilà, c'est
Et
ça.
c'est normal de
Oui.
suivre les explorateurs. C'est les gens qui ont été choisis au départ par Hachem pour les diriger.
Oui, ben justement.
Alors quoi, justement?
Et ben, ils reviennent, ces deux qui fichent la révolution. C'est les explorateurs ont été choisis. Ou
Mais
alors
c'est bien de
Hachem.
ça qu'on parle.
Oui, mais alors
Pourquoi?
Hachem voulait que ça se tape la figure.
Pardon?
Hachem voulait ce scénario. Comme vous dites,
Mais bien sûr qu'il voulait ce scénario.
Mais
Mais les
non,
gens, ils voulaient ce scénario. Ça veut dire, moi personnellement, je lis plutôt là-dedans. C'est pas qu'il voulait que ça se passe exactement comme ça, mais il a créé les conditions pour que ça puisse se passer comme ça. Et que si on veut que ça se passe pas comme ça, il faudra un très gros effort. Parce qu'il n'y aura pas d'aide du ciel.
sans aide du ciel, on aurait toujours dit ça marche pas,
Bon,
rien.
alors ça ne marche pas vraiment, mais
Attends.
peut-être il y aura, quand Hachem dit il n'y aura pas d'aide du ciel, ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas d'aide du ciel pour démarrer. Ça va être ça la difficulté. Quand on aura commencé si on avait commencé par faire ce que Hachem demande, et que c'est impossible de le faire tout seul, alors Hachem nous aurait aidés, effectivement. Hachem aide. Là, simplement, la question de savoir, est-ce qu'il va m'aider, c'est-à-dire va me donner le coup de pouce pour démarrer ou pas? Dans la prière que nous faisons tous les jours, on demande à Hachem de nous aider à faire tshuva. On avait déjà dit, c'est un peu étonnant. Bon, la tshuva, c'est mon job, c'est mon problème à moi. Pourquoi je demande à Hachem de nous aider? Ici, parce que on demande à Hachem de créer des conditions telles que je puisse facilement faire tshuva. C'est-à-dire, c'est mon job, c'est moi qui dois prendre l'initiative, mais comme quelqu'un qui a décidé qu'il allait arrêter de fumer, ben, ça lui est difficile de commencer cet arrêt de fumer, quand il va tous les jours à son bureau et que le bureau il est complètement enfumé, que toutes les 3 secondes quelqu'un lui propose une cigarette. Alors, comment Hachem peut l'aider? L'aider pour qu'il commence à s'éloigner de sa cigarette pendant les vacances, où il va être dans un milieu porteur de non-fumeur, et à ce moment-là, il sera un peu renforcé. Et alors après, puisqu'il a commencé, alors Hachem va l'aider à tenir le coup quand il va revenir dans son bureau de enfumé pour que il se casse pas la figure. Comme ça. Mais ça, lui, il aura dû commencer. Et l'aide d'Hachem, c'est pas l'aider pour qu'il, c'est pas pour susciter chez lui la volonté d'arrêter de fumer. Mais pour créer des conditions, pour faire en sorte que le lieu de vacances qu'il a choisi soit pas un lieu où tout le monde fume.
L'aide d'Hachem, ce que je ressens, c'est que l'aide d'Hachem, c'est à un moment, il m'aide à ne plus être que humain. Il m'aide à quelque chose que je ne suis pas capable de faire, de toute façon, toute seule. L'Epsilon, je ne dis pas la Teshuvah et la Sevra du Tabac. Oui, mais pour accéder à ce niveau de décision et de maintenance, c'est plus dans les normes humaines. Il me faut quelque chose qui me fasse passer de lui, quelque chose de divin.
Bon, vous pouvez dire comme ça.
Parce qu'autrement, tout. Écoutez,
Justement, vous pouvez dire comme ça.
Mais chaque année, les explorateurs me bousculent. C'est très gros.
Grave.
Ça, c'est votre faute. Vous avez le choix de partir en vacances à cette époque. Ne l'entendrez pas et c'est bon, ça.
Mais réfléchissez pas, prochaine fois.
S'il vous plaît, Rav, pourquoi ce sont des
Oui.
sadikim, pourquoi ce sont des sadikim qui sont envoyés et pas des guerriers?
Parce qu'il n'y avait pas de guerre à faire. C'est des gens qui doivent observer, espionner et faire un rapport sur la qualité de la terre. Est-ce qu'elle est fertile? Est-ce qu'elle n'est pas fertile? Quel genre de gens? Est-ce qu'ils ont construit des villes fortifiées? Ou bien est-ce qu'ils sont tellement sûrs de leur force qu'ils n'ont pas besoin de fortifier les villes parce que personne ne peut les attaquer, etc. Toutes ces considérations-là, on n'a pas besoin d'être un guerrier pour ça. À part ça, ils sont probablement des gens qui auraient su diriger le clan Israël si jamais c'est eux qui avaient été désignés pour faire la guerre. Ça, je ne sais pas comment ça se passe. Quand on a fait la guerre contre Amalek, je ne sais pas comment qui dans les tribus ont. Mais Yoshua était sur le terrain, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Est-ce que chaque tribu a combattu un endroit précis désigné par Yoshua, ou et à ce moment-là, les uns a combattu, je sais pas, avec des lances, les autres avec des épées, les troisièmes avec du feu, etc. Je sais pas, donc comment ça s'est passé?
Mais les Juifs, on les mettrait plutôt en arrière, sont des princes, on les mettrait plutôt en arrière que d'aller sur le terrain et de mesurer tout ça. On envoie plutôt les espions, c'est des personnes qui sont pas forcément des justes. Pourquoi là des justes? Pourquoi des tzadikim?
Parce que c'est des tzadikim, c'est-à-dire qui sont les chefs des tribus, donc des gens qui sont les leaders de ces tribus, qui représentent la tribu, qui sont quasiment les rois de leur tribu. Et donc c'est eux qui doivent décider, au nom de la tribu, on les met en position de décider. Et le roi, par exemple, quand le roi est roi, et c'est lui qui va éventuellement regarder, ou bien il va envoyer des gens, si lui il considère qu'il n'est pas compétent. Mais Hachem, c'est Hachem qui les a choisis. Donc si Hachem les a choisis, c'est que ils étaient tout à fait compétents pour faire le rapport qu'on leur a demandé. Qu'on leur avait pas demandé, c'est de dire si on y arrivera ou pas. On leur a demandé est-ce que les gens est-ce qu'ils sont, ils ont l'air sûrs d'eux, etc. Mais on ne leur a pas demandé leur avis sur l'issue de la bataille le cas échéant. Et là, donc, ça veut dire qu'ils ont fait que, je crois que l'an dernier, on a parlé de ça, ils ont fait un commentaire du rapport qu'ils ont fait. Ils ont fait un rapport et un commentaire du rapport. On ne leur a pas demandé le commentaire. S'ils n'avaient rien dit dans le commentaire, voilà, c'est tout.
C'était à ça que servaient les questions.
Pardon?
C'était à ça que servaient les questions.
Oui,
C'était pour
si vous
montrer.
regardez les questions de. Que Moshe Rabbeinu leur a posé. Bon, c'est pour ça que quand ils reviennent, ils disent aux questions que nous a posées, tout est parfait. Taisez-vous, c'est tout. Maintenant, arrêtez de parler. Tout ce que vous allez dire maintenant, c'est un commentaire. Et ce commentaire, on ne vous a pas demandé. Et vous savez, on ne peut pas normalement, quand quelqu'un il est chargé de mission pour faire un rapport, on ne leur a pas demandé obligatoirement le commentaire. C'est toujours ce qui est très, extrêmement surprenant, c'est que quand Pharaon demande à Yosef de lui expliquer le rêve. D'accord? On est surpris de la chutzpah de Yosef, que tout à coup il se met à donner des conseils à Pharaon. Normal, en temps normal, si c'était pas Yosef protégé par Hachem, je pense que une fois qu'il a dit ce qu'il a dit, et qu'il a continué de parler, je pense qu'il aurait perdu la tête. Quand tu ne peux pas te permettre de donner des conseils à Paro. Vous imaginez quelqu'un qui va donner un conseil à Staline ou à Hitler.
Merci.
Hein?
J'ai dit, il n'aurait pas fait de vieux souvenirs.
Oui, c'est ça. Donc ça c'est une des choses intéressantes parce que quelque part, il lui a dit, ça, c'est ça le sens du rêve. Je ne suis pas en train de te faire un commentaire. C'est dans le rêve. L'explication est dans... Tu m'as demandé d'interpréter le rêve. Je t'interprète le rêve. Je sais pas. C'est pas que je te donne des conseils en dehors du rêve. Mais bon, ça pouvait apparaître comme des conseils donnés par quelqu'un qui n'a pas été autorisé à donner des conseils. Donc ces braves gens, ils reviennent et ils disent c'est pas possible. Pas possible, on peut pas y arriver. Et donc, c'est des pleurs, c'est... Et alors Hachem leur dit, c'est toujours une chose assez difficile à comprendre, parce que quand ils pleurent, en disant, mais pourquoi Hachem nous a amenés là, pour crever dans le désert, etc. Donc Hachem n'apprécie pas la chose et à la limite il va sanctionner très fort et ils vont développer même une théorie et d'accord que Hachem n'est pas aussi fort. Alors quand Hachem va dire ça c'est au chapitre 14 au verset 11, où Hachem dit à Moshe, jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il? Jusqu'à quand n'auront-ils pas foi en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés en son sein? Je vais le frapper de la plaie et l'anéantir. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Donc, ça veut dire, je vais les anéantir. Et je vais faire une nouvelle nation. Je commence avec Moshe. Ce que Moshe, évidemment, a refusé, mais on avait, je crois, fait remarquer, peut-être l'année dernière, que Moshe va appliquer une technique qu'il va appliquer à d'autres moments aussi. Il va dire, OK, tu vas les détruire, mais si tu les détruis, tu vas faire un Chilul Hashem. C'est-à-dire, il disait à Hachem, tu vas profaner ton nom si tu les détruis. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils vont interpréter la destruction en disant que c'est parce que tu as compris que tu pouvais effectivement pas les faire entrer en Eretz Israël. Et comme tu as pas voulu, tu veux pas évidemment assumer ton échec, alors, tu les as fait mourir dans le désert. Et ça, c'est un argument gagnant. D'accord? C'est Moshe Rabbeinu qui dit à Hachem, ce serait un Chilul Hachem. Alors, Hachem a dit, OK, ça va. Je ne vais pas les détruire complètement. Donc, ça, c'est une chose très forte. Salarti, le fameux Salarti qui te barrera, c'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est ce que nous utilisons, c'est la phrase standard qu'on dit à l'entrée de Yom Kippour. D'accord? C'est l'article qu'il va réfléchir.
On ne peut pas penser qu'Hachem n'y avait pas pensé tout seul à ça. Alors ça veut dire quoi
Oui, non,
derrière?
mais tout ce qui se passe, tout ce que les hommes font, on peut toujours dire qu'Hachem y pensait bien avant eux. Hachem, il laisse les choses se dérouler. En particulier, on voit qu'il a laissé les choses se dérouler alors que on a du mal à comprendre qu'il a laissé les choses se dérouler jusqu'à la tragédie que représente la destruction de l'Israël.
On peut parler ici de Hulul parce que c'est le peuple d'Hachem. On peut parler ici de Hulul Hachem parce que c'est le
Non, mais le Hilul Hashem, c'est un Hilul Hashem par rapport aux Goïms. Les Goïms vont dire, et donc c'est un Hilul Hashem universel, quoi. Les Goïms vont dire, bah, tu n'étais pas capable de tenir ta parole, et donc, pour qu'on ne voit pas que tu as pas, t'es pas capable, alors par contre, tu es prêt à les détruire complètement dans le désert, ça les, ils vont tous mourir dans le sable. Mourir dans le désert, ça veut dire être bouffé par le sable, disparaître complètement. C'est pas du tout. Ils sont pas dans la terre. Hein. Ils vont être dans le sable. Et dans le sable, bon.
Mais ça, c'est un chilul parce que le clan d'Israël, il est lié à Hachem avec une alliance indéfectible. C'est pour ça qu'on parle de chilul ici.
C'est pour ça que.
C'est pour ça qu'on peut parler effectivement de chilul. C'est parce que ça suppose, ce chilul, qu'il y a quelque chose d'indestructible dans le brit qui unit le peuple à Hachem.
Oui, non, mais là, ici, ici, Moshe Rabbeinu, il ne dit pas, tu transgresses l'alliance, puisque l'alliance, elle est, c'est une alliance qui continue quoi qu'on fasse. Toi, tu es obligé, même si nous, on fait pas notre part de l'alliance, ça ne te permet pas de te désengager. Or, toi, tu es engagé par, voilà. Mais c'est pas ça qui est dit ici. Ici, il parle vraiment d'un Hilul Hashem.
Quelqu'un qui a une alliance, il peut rompre son but
Mais
d'alliance.
non, parce qu'Hachem ne peut pas changer d'avis. Hachem ne change pas d'avis. Et donc, voilà, Hachem dit, voilà, à part, sauf Caleb et Joshua, personne n'arrivera en Eretz Israël de toute cette génération. Alors, on voit très bien que il y a une réaction très étonnante de la part des Israéliens, c'est que ils comprennent qu'ils ont eu tort de dire qu'ils voulaient pas aller en Eretz Israël. Hachem l'a mal pris, qu'ils ont sanctionné, etc. Alors, ils disent, mais bon, alors, ok, alors on va le faire. On va aller maintenant en Eretz Israël. Donc, à la limite, ils font preuve de bonne volonté. Ils disent, bah, ce qu'on n'avait pas compris, maintenant, on va réparer, on va y aller.
C'est fort de Chuba.
Et à ce moment-là, au nom d'Hachem, moi, je leur dis, non, vous ne pouvez pas y aller. Parce que maintenant, vous n'y allez pas parce qu'Hachem l'a ordonné. Vous y allez parce que vous voulez y aller. Si elle ne sera pas avec vous, ça ne va pas marcher. Et ils y vont quand même. Ils y vont quand même et ils se font complètement battre. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est cette chose-là dont on nous a dit qu'elle devait être faite. Et on est puni pour ne pas l'avoir fait. Comme maintenant, on dit, bon, alors on va l'essayer, on va le faire. À ce moment-là, c'est encore une fois, tu désobéis encore une deuxième fois. Pourquoi? C'est trop tard, ça veut dire. C'est trop tard. Les conditions pour entrer en Eretz Israël ne sont plus réunies à partir du moment où vous avez dit que vous n'êtes plus y aller. Même, et c'est étonnant, même si vous faites tchouva, en fait. On pourrait dire, mais ils ont fait tchouva, donc maintenant. Ils ont dit, OK, alors on a compris qu'on s'est trompé. D'accord? Et donc, on va y aller. Pourquoi est-ce que c'est pas acceptable? Pourquoi est-ce que maintenant, on leur dit, non, non, ça, on est prêt, on va y aller.
Ils ont fait chouva à cause de la punition, ils ne voulaient pas la punition.
OK, mais est-ce que, Est-ce qu'on ne peut pas faire tchouva parce qu'on a reçu la permission? La punition, pardon?
Mais ici, il n'y a pas d'autre chemin, puisqu'ils sont en train de contredire l'ordre des chaînes, au
Non,
final.
mais au départ, ils se levèrent de bon matin et montèrent vers le sommet de la montagne en disant: Nous sommes prêts et nous monterons vers l'endroit dont Hachem a parlé, car nous avons fauté. Alors Moshe leur dit: Mais pourquoi transgressez-vous la parole d'Hachem? Ça ne vous réussira pas. Ne montez pas, car Hachem n'est pas au milieu de vous. Mais bon, ils s'obstinèrent. Et alors les Amalek et les Cnanim sont tombés dessus et ils les taillèrent en pièces jusqu'à Rome. Il reste évidemment à comprendre pourquoi effectivement ça n'est plus le moment. Ça veut dire que nous, quand on fait tshuva, on ne nous dit pas c'est trop tard. Quelqu'un veut faire tchouba, il fallait faire quelque chose, je ne l'ai pas fait, je vais me rattraper. Dans certains cas, on peut se rattraper. Pourquoi on ne nous dit pas non, maintenant c'est plus HM? Ça veut dire que la façon dont ils ont refusé d'y aller, ça s'est fait de façon tellement grave, tellement puissant, qu'il n'y a pas de possibilité. La tchouva, c'est pas de faire maintenant ce qu'il aurait fallu faire hier. Vous n'êtes plus dans les conditions de conquête de la terre. Ça veut dire conquérir la terre, c'est évidemment la conquérir avec Hachem, et Hachem, maintenant, il a changé d'avis. Parce que vous n'êtes pas mûr, ça veut dire. Vous n'êtes pas, visiblement, vous avez montré que vous ne pouvez pas maintenant entrer en Eretz Israël.
Est-ce que ça ressemble à quand Hachem a fait ce qu'il avait pour que Paro ne fasse pas des choses?
Non, mais là, c'est pas qu'il les a empêchés de faire Tchouma.
Non, il n'a pas dit.
Hachem a dit que c'est plus, enfin, c'est ce que Moshe parle, c'est Moshe dit, que maintenant c'est trop tard. Hachem n'est plus avec vous parce que, si vous voulez, c'est une façon de nous dire combien l'histoire des explorateurs est importante et combien c'est un tournant dans la vie du clan Israël. C'est un changement bouleversant puisque tout a changé. Ça veut dire que on va rentrer 40 ans plus tard, et dans des conditions complètement différentes. Ça veut dire en particulier pendant 40 ans, l'idolâtrie va s'implanter, va s'enfoncer dans le pays d'Israël, l'idolâtrie cananéenne. Pendant ce temps-là, la génération, ben, c'est plus la génération qui a vécu la sortie d'Égypte, c'est plus le fameux Dor Déa dont on parle de façon tellement admirative. Non, c'est plus eux.
C'est un peu bizarre, mais c'est plus d'Orléans, alors que c'est eux qui viennent de fauter, c'est eux qui se font
Mais
disqualifier.
c'est le Dor, c'est en tant
C'est
que
un peu
Dor
bizarre.
Déa qui se sont disqualifiés. C'est parce que, pourquoi c'est eux qui sont sanctionnés? Parce que avec tout ce qu'ils avaient vu,
Il y
et comme
avait
Hachem m'a dit, avec tout ce que je fais, ils continuent de pas me faire confiance.
notre histoire est semée de rendez-vous manqués, hein, On
Oui.
commence par Adam et Rava, et ça aussi, il y a un beau programme, il y a des belles choses, et puis on comprend pas pourquoi, soudain, et là, monsieur Adam fait quelque chose de plus, et il contrarie Hachem. Alors, c'est Hachem qui le voulait, ça veut dire que c'est les rendez-vous manqués, ou c'est Hachem voulait que l'histoire se fasse comme ça, sûrement, par rendez-vous manqué. Mais c'est pas étonnant, on dirait qu'on prend l'habitude. C'est grave. Même la première gravité, ça a commencé là.
Dans ce tout ce déroulement, il y a un membre de l'ENA. Mais le peuple, il n'était pas mûr pour avoir cette ENA.
Oui, mais c'est ce qu'Hachem leur a dit. Jusqu'à quand ils ne font pas confiance? Jusqu'à quand ils n'auront pas d'émouna en moi avec tous les signes que je leur ai donnés. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les signes ne feraient n'aident pas du tout à la émouna. Les miracles, ça n'a aucun effet sur la émouna. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet, ça veut dire que ça n'a pas d'effet à long terme.
Comment vous
On est
faites?
impressionné, mais on passe très vite. La vérité, c'est que même les événements relativement contemporains sont passés, donc on a dit que c'était miraculeux, etc. On a oublié après. Très vite.
Est-ce que le fait que Moshe Rabbeinu lui aussi soit disqualifié pour entrer dans la terre d'Israël,
Non,
c'est...
mais justement, Moshe Rabbeinu n'est pas disqualifié avec ça. C'est ce qui va être dit par la suite. Que Moshe Rabbeinu, il n'est pas du tout disqualifié pour ça. Il a son problème à lui, quoi.
Et
Enfin,
ça...
il n'est pas. Ni Moshe ni Aaron ne sont disqualifiés
Par rapport à ça.
par rapport à ça.
Et on ne peut pas en déduire que c'est la terre d'Israël qui exige à chaque fois un niveau de qualification que chacun n'a pas, même si c'est pour des raisons différentes.
Oui, ça veut dire que, comme on dit que c'est une terre, je pensais. Une des choses qu'ils ont dites, que les explorateurs ont dit quand ils sont revenus, ils ont dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi elle mange ses habitants? Parce que, comme vous vous souvenez, partout où les Bnei Israël passaient, il y avait des enterrements. Mais en fait, les enterrements étaient là pour permettre aux Bnei Israël de passer un peu plus incognito, parce qu'il y avait un brassage de population au moment des enterrements. Autrement, ils auraient été tout de suite repérés comme des étrangers, etc. Et donc, c'est vrai qu'Hachem a fait les choses de telle sorte, c'est des miracles, que la Terre, justement, à ce moment-là, il y a beaucoup de morts, hein, morts naturelles, quoi, des morts, voilà, il y a des morts partout, pour protéger les Bnei Israël. Et les Bnei Israël, comme ils n'avaient pas décidé de voir. Parce qu'on a ce fameux Midrash qui dit que, effectivement, ils ont mis comme une espèce d'écran et ils comprennent rien, parce qu'ils voient pas. Ils savent pas voir. Ils se sont mis des écrans qui leur permettent pas de voir. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a des gens qui sont allés et qui n'ont pas eu la force d'interpréter positivement, mais franchement dit, nous, quand on entend ça, on comprend que ce soit assez difficile de l'interpréter de cette manière-là. Mais vous pouvez l'interpréter de cette manière-là plus facilement que nous, quand vous êtes des gens qui avez vécu la sortie d'Égypte, le passage de la mer, etc., les guerres, Amalek, etc., le don de la Torah, d'accord? À ce moment-là, vous avez vu tout ce qu'Hachem fait, donc il peut vous venir plus facilement à l'esprit qu'Hachem s'occupe de vous que des gens qui n'en ont pas l'habitude, quoi. Nous, on n'a pas cette habitude, bien que Hachem s'occupe de nous aussi. Quand on apprend à regarder, on s'aperçoit que il y a plein de choses qui sont, tiens, pourquoi c'est comme ça? Ça se passe pas du tout comme on l'avait prévu, etc. Il y a des situations qui nous paraissent complètement désespérées, et c'est justement de cette situation-là que les bonnes choses sont sorties, quoi. C'est à travers ça qu'Hachem s'est manifesté et que les choses ont complètement changé. En tout cas, ici, on leur dit, voilà, c'est terminé. C'est-à-dire, il y avait un moment. C'est comme s'il y avait, c'est comme une fenêtre de tir pour les fusées, quoi. Il y avait un moment pour y aller. Après, ben, si tu envoies la fusée en dehors de la fenêtre de tir, elle n'arrivera pas. Alors, Hachem veut tout faire, oui. Mais Hachem, il se plie à certaines lois. Il a mis, c'est lui qui les a mises, et il respecte les lois. Et donc, pour entrer en Eretz Israël, il fallait une certaine dose de confiance, de manifestation de la confiance. La première manifestation de la confiance aurait été de dire, j'ai pas besoin d'envoyer des espions. Hachem a dit que c'était bon. Jusqu'à présent, lorsque Hachem a dit que c'était, quand Hachem a dit que les choses étaient bonnes, ça a toujours été bon. On n'a pas d'exemple où Hachem nous a envoyé dans le décor. Bon. Donc, chaque fois qu'Hachem a dit c'est bon, c'était toujours bon. Mais putain, tout à coup, ils se disent, ah ben non, c'est pas sûr, on va aller voir. Mais tu vas voir, c'est quoi? Alors, on peut expliquer, bien sûr. La raison pour laquelle il voulait aller voir, c'est que on peut interpréter une situation dans laquelle on s'abandonne complètement à Hachem, comme étant la situation, par exemple, d'un nourrisson qui s'abandonne complètement dans les mains de sa mère ou de son père. Et qu'à un moment donné, quand il grandit, voilà, il y a un moment où il a envie de se prendre en main. Donc, on peut imaginer que les Bnei Israël se soient dit à ce moment-là, on va se prendre en main. Hachem a dit que c'est bon, mais on va faire les choses comme si effectivement, c'était à nous de décider si c'est bon ou pas.
Sans retourner en Égypte, où ils sont sous la tutelle d'une mère encore plus pesante. Et retourner en Égypte,
Non, mais pour
c'est
l'instant, ils ne retournent pas en Égypte.
ça.
Pour l'instant, ils envoient des explorateurs.
Ah, d'accord.
Ils envoient des explorateurs parce que, voilà, on est adultes maintenant, on va aller regarder par nous-mêmes. Je n'ai plus besoin que papa-maman viennent m'accompagner pour savoir si l'appartement que je vais acheter est bon. Je peux y aller tout seul. Je vais y aller tout seul. Voilà. Et bon, c'était cette idée-là, semble-t-il, c'est une idée classique de présumer de ses forces, ça veut dire. On retrouve ça chez Nadav et Abihu, qui disent la même chose. On n'a plus besoin des vieux, là, maintenant. Nous, on est assez grands pour eux, pour prendre les choses en main. C'est quelque chose de naturel de vouloir prendre les choses en main.
C'est aussi ce qu'HM veut.
Quoi?
C'est HM qui veut aussi qu'on soit
Oui,
responsable.
bien sûr, mais seulement pour, donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que c'était prématuré. Et c'est tout était, enfin presque tout, puisque le début de l'histoire, c'est aussi le début de, c'est un commencement d'une erreur par mauvaise évaluation. Ils ont pensé que, Chazal disent, Bikshu lasot cheshbonot. C'est-à-dire Adam et Chava, ils ont choisi de se donner des difficultés supplémentaires. Donc finalement, Hachem est trop proche de nous, c'est très facile de lui faire confiance et tout. On va se donner des situations un peu plus difficiles. Et donc, si vous voulez, la désobéissance, c'est la création d'une situation un peu plus difficile. Bikshu cheshbonot, ils ont dit, mais ça sera mieux, comme on va sûrement y arriver et on aura du mérite. On aura plus de mérite que simplement de suivre. Et donc là aussi, on peut dire, ils ont voulu aller voir par eux-mêmes, et c'est pour ça que Moshe a pu penser que c'était bien. Parce que c'était sûrement pas, donc on peut pas les présenter comme des gens qui vont aller voir parce qu'ils font pas confiance. C'est un peu, ça marche pas vraiment. Mais si tu dis qu'ils sont allés voir parce que c'est à nous à apprendre à voir, ok, ça devient possible. Et alors, si on va dans ce sens-là, on les présente presque plutôt comme des tzadikim, quoi, des gens qui veulent faire, mais bon, alors pourquoi ça marche pas? Parce que c'était prématuré. Parce qu'ils étaient pas prêts. C'était pas encore le moment. Et du coup, on a une autre lecture. Il existe une lecture chassidique, par exemple, qui dit la chose suivante. Il dit que les Bnei Israël savaient que Moshe Rabbeinu n'entrerait pas en Eretz Israël. Et ils savaient aussi, il y a un Chazal qui explique que En Adam Omed, un homme ne comprend l'enseignement de son maître que après 40 ans. Et donc les Bnei Israël ont voulu que Moshe Rabbeinu vive plus longtemps. Et donc pour qu'il puisse vivre plus longtemps, Il faut repousser l'entrée en Eretz Israël pour que Moshe Rabbeinu arrive à 40 ans, puisqu'il est Niftar, enfin, pas qu'il arrive à 40 ans, mais qu'il y ait eu 40 ans depuis le début de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, d'accord, puisque Moshe Rabbeinu, il a 80 ans à la sortie d'Égypte. Donc, il va vivre encore 40 ans, et donc, 40 ans pendant lesquels on a l'enseignement. Et donc, les Bnei Israël voulaient recevoir la totalité de l'enseignement, de comprendre l'enseignement de Moshe Rabbeinu, du vivant de Moshe Rabbeinu. Donc, ils voulaient forcer obliger Hachem, en quelque sorte, à repousser l'entrée en Eretz Israël, puisque comme Moshe Rabbeinu ne peut pas entrer, donc il faudrait qu'il meure avant. Donc, ils ont décidé, on va faire. Donc, c'est une lecture qui va encore un peu plus loin que ce qu'on a dit ici. Bon, où on les prend, ils se prennent. Voilà. Alors, mais bien entendu, c'est une erreur, c'est une faute. Mais quelle est la faute? La faute, c'est que il faut pas vouloir faire les choses à la place d'Hachem. Si Hachem avait voulu qu'il puisse bénéficier de l'enseignement de Moshe Rabbeinu jusqu'à y compris 40 ans, Hachem n'avait pas de difficulté à faire entrer les Israël un peu plus tard, ou à prolonger la vie de Moshe Rabbeinu, même en Eretz Israël. Enfin bon, il y avait toutes sortes de possibilités. On n'a pas besoin de souffler à Hachem comment il pourrait se tirer d'affaire pour que les choses se passent comme nous, on comprend qu'elles doivent se faire.
C'est
Donc,
vrai.
visiblement, Hachem ne voulait pas que les Israël bénéficient de la compréhension de l'enseignement de Moshe Rabbeinu, du vivant de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça change? De le comprendre, quoi?
Fait, quand ils l'ont quand même aimé, ils
Non,
sont
parce
quand
qu'il
même
est
des
mort à
femmes.
40 ans.
Alors?
Il est mort à 40 ans, donc ils ont pas eu le temps d'en profiter, quoi. Vous voulez. Moshe Rabbeinu, il est
Ils
mort.
ont bien aimé sur la 40 années supplémentaires, mais 38 années supplémentaires, mais 38 années de mouvement.
Non, mais cette situation-là, alors, on peut dire qu'effectivement, il voulait pas qu'il meure, etc., mais il voulait encore. Même après, quoi, quelque part, ce souci continue. Quand Moshe Rabbeinu arrive à plus 40, pratiquement, les Israël voudraient que Moshe Rabbeinu, mais ils n'ont pas compris que à ce moment-là, ils auraient dû demander. Et là, ils auraient peut-être pu obtenir.
Est-ce qu'il ne va pas continuer à avoir bougé entre eux et HM, toujours?
Non, au contraire. Ils voulaient avoir Hachem et ils voulaient avoir Moshe.
Oui, justement. Pour pas s'adresser, s'ils n'ont pas bougé, ils sont obligés de s'adresser direct. Ça leur fait peur, donc ils veulent toujours bouger en parlant
Ah, vous
avec
voulez dire
HM.
qu'ils l'ont. Oui, bon, ok, c'est bon. J'ai compris que vous disiez le contraire.
Mais c'est un peu.
Bon, ça, c'est une lecture
Oui.
chassidique de la chose, mais bon, ça s'entend, c'est quelque chose qu'on peut entendre.
En quoi la fonction que Hachem a mis en place, elle répare le défaut de l'Emouna,
Deux.
le défaut de l'Emouna.
C'est-à-dire, ils vont vivre encore 40 ans dans le désert, pris en charge par Hachem. On va les obliger à apprendre encore plus fortement que Hachem s'occupe vraiment d'eux. Ces 40 ans, c'est les 40 ans pendant lesquels ils sont censés apprendre encore mieux qu'Hachem s'occupe d'eux. Ça n'a pas vraiment marché, mais bon. Comme ça que ça se présente.
Rachel veut que nous soyons autonomes, adultes.
Oui, mais
Adulte a toujours son père, quoi.
non, Hachem veut que nous soyons adultes, etc. Mais on est obligé d'en passer par une période de préparation à cet état d'adulte. Et on n'avait pas fini. T'es pas prêt.
Est-ce que l'étude, quand vous nous dites que étudier, c'est parler divinement, c'est penser divinement, est-ce que par l'étude, on acquiert, parce que j'ai mis l'image du Père qui est toujours là, mais on est peut-être côte à côte avec le Père, non? Je ne sais pas, je ne vais pas dire on est égal d'Hachem, mais on est côte à côte. C'est-à-dire, je sais comment ils pensent, comme quand on a un maître et qu'on a, je suppose, écouté des vies entières, on sait comment ils pensent. Et l'élève, le maître surtout, il sait comment son élève pense. Il sait, à l'avance, il sait qu'est-ce qu'il va dire. C'est comme s'il y avait un côte à côte des deux personnalités.
Bon, c'est évidemment pas complètement un côte à côte, mais c'est peut-être c'est être auprès de Edsel.
Et tu l'as quand même eu. Là, on est dans Chapelle-Fa, donc on a presque fait un Babimba. D'ailleurs, je rappelle l'événement, quand on est Babimba, et on va sauter tout de suite, 38 ans plus tard, à l'enterrement d'Israël. Donc, il y a quand même eu ces 38 années durant lesquelles ils ont bénéficié d'enseignement de Moshe Rabbeinu.
Mais donc justement, oui, d'un enseignement de Moshe Rabbeinu, mais rien de nouveau. Parce que pendant 38 ans, Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu de neuf voix.
Oui, c'est pas nouveau, mais il a trouvé l'évident. Il avait.
Oui, non, ils ont pu réviser. Ils
C'était.
pouvaient réviser tout ce que Moshe Rabbeinu leur
Tout
a.
à
Enfin, il
fait.
a continué de leur dire, mais c'est pas.
Voilà.
Moshe Rabbeinu n'a pas reçu de prophéties supplémentaires, parce qu'il reçoit les prophéties au nom du clan d'Israël. Le clan d'Israël ne méritait pas de recevoir la parole divine pendant ces 38 ans. Donc, mon cher Abel n'a pas reçu de parole divine à ce moment-là. Mais il était riche de la parole qu'il avait reçue, donc il pouvait enseigner. C'est pour ça qu'il n'y a rien de décrit pour ces 38 ans, parce que la Torah, c'est l'enseignement qu'Hachem a donné à travers mon cher Abel. Il n'y a pas d'enseignement pendant ce temps-là. Voilà, on s'arrêtait là.